Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire dont je suis certain que vous gardez un souvenir sans doute un peu confus. C'était en 2009 dans l'Essonne, au sud de Paris. L'enlèvement et l'assassinat d'une joggeuse qui s'appelait Marie-Christine Odo. Et cette histoire a marqué parce que elle a alimenté à l'époque le débat sur la récidive et que le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'en est emparé. Nous la débrieferons tout à l'heure avec l'avocat qui a porté au procès les intérêts de la mère et des frères de la victime, maître Dominique Pollion. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire commence par une scène stupéfiante, unique, du jamais vu. Le 28 septembre 2009, à 9h12 précisément, le téléphone sonne à la gendarmerie de Milly-la-Forêt, dans l'Essonne. Un gendarme décroche, c'est son premier jour. Et il n'est pas prêt d'oublier ce premier appel de sa carrière. Gendarmerie nationale, bonjour.
Allô ? Allô, on est en train de m'enlever. Je m'appelle Marie-Christine Odo. Et un homme avec un couteau m'a mis de force dans le coffre de sa voiture. C'est une Peugeot 106. Et dans son immatriculation, il y a les lettres L, K et M. J'étais en 6 sur école, à côté de Milly-la-Forêt. La voiture s'arrête. Vite ! Aidez-moi !
Et là, le gendarme médusé entend au téléphone le bruit d'un coffre qui s'ouvre, d'un coup, et puis plus rien. La pression sur les épaules de ce jeune gendarme. Il court voir ses supérieurs. Il y a eu un enlèvement. Une femme qui s'appelle Marie-Christine Odo, H-O-D-E-A-U, je pense, mais j'en suis pas sûr, elle vient de m'appeler depuis le coffre d'une voiture où elle était enfermée. On est tout près de Paris. C'est la section de recherche de Paris qui se met sur le coup. Immédiatement, deux gendarmes foncent vers Milly-la-Forêt. Et puis on installe un PC à la gendarmerie du coin. Une équipe est mobilisée pour fouiller les bois alentours. Des chiens débarquent. Et très vite, la garde républicaine à cheval. Et finalement, un hélicoptère. À la mi-journée, 200 hommes sont sur les traces de Marie-Christine Odo. Sacrée mobilisation de la gendarmerie. En attendant, elle a été identifiée, cette femme. Ça s'écrit bien avec un H, H-O-D-E-A-U. Une équipe de gendarmes débarque chez elle. Elle vit là avec sa mère. Et elle a bien disparu. Elle était en train de faire son footing. Et elle n'est pas revenue. Moi, je commençais à m'inquiéter. Une joggeuse qui se fait enlever au cours de son footing. C'est un classique des affaires criminelles. Très bien, madame. Est-ce que vous connaissez le parcours qu'emprunte votre fille quand elle va courir? Est-ce qu'elle a des habitudes? Je crois qu'elle passe toujours par la forêt. Elle fait une boucle qui passe par Oncy sur école et puis elle rejoint Milly-la-Forêt. Vous croyez que vous allez la retrouver? On va tout faire pour, madame Odo. Je vous promets. Les gendarmes en profitent pour récupérer quelques effets de la disparue. Alors il nous faudrait sa brosse à cheveux, si elle en a une. Sa brosse à dents aussi. Et puis des vêtements qu'elle aurait portés qui n'auraient pas été lavés. La brosse à dents et la brosse à cheveux, c'est pour récupérer son ADN. Et les vêtements, c'est pour son odeur, pour pouvoir les faire renifler à un chien. Ah, il nous faudrait une photo aussi. 42 ans, grande, blonde, sportive, souriante, très jolie. Et d'après ce que dit sa mère, célibataire. Elle fait quoi dans la vie, votre fille, madame?
Elle est assistante maternelle. Elle garde les enfants chez elle, quoi.
Et ce matin, avant d'aller courir, vous savez ce qu'elle a fait?
Ce qu'elle fait tous les jours, c'est-à-dire déposer les enfants à l'école.
Vérification faite, on l'a bien vue à l'école. Des parents d'élèves ont discuté avec elle. Et par ailleurs, la mère a donné son numéro de portable. Mais il a été coupé, il n'aimait plus. Au PC, à la gendarmerie, On s'est mis à la recherche de la voiture, c'est-à-dire la Peugeot 106, dont Marie-Christine Audeau a donné l'immatriculation, ou plutôt un bout de l'immatriculation. Bon, elle a dit L, K et M. Regarde si ça colle avec une Peugeot 106. Négatif. Zut, dans la panique, elle n'a pas dû noter les bonnes lettres. Essaye en inversant les lettres. MKL ou LMK ou KLM. C'est bon, j'ai quelque chose, une Peugeot 106 avec les lettres KLM. Bingo! Le propriétaire de cette Peugeot 106 est un avocat parisien connu. Il habite dans le très chic 16e arrondissement et a priori, il n'a pas du tout le profil d'un ravisseur de joggeuse. Mais on ne sait jamais. Une équipe de gendarmes fonce à son cabinet. La stratégie des gendarmes est de poser des questions sans dire pourquoi ils sont là. Vous nous confirmez, monsieur, que vous êtes bien le propriétaire de cette Peugeot 106? Ah oui, oui. Oui, je vous le confirme. Mais pourquoi me posez-vous cette question? Ce véhicule, monsieur, est-ce qu'il est garé en bas de chez vous? Mais pourquoi vous voulez savoir ça au juste? Monsieur, le véhicule dont vous êtes propriétaire est impliqué dans un fait grave. D'accord. Eh bien, écoutez, cette voiture est celle de ma résidence secondaire. Elle est à Échileuse, dans le Loiret. Donc, elle est dans le Loiret. Et elle n'est pas à Paris. Vous savez si on vous l'a volée? Ah, mais non, j'en sais rien. Comment voulez-vous que je sache? Est-ce que quelqu'un d'autre que vous a l'habitude de l'utiliser? Enfin, c'est agaçant, toutes ces questions. Oui, de temps en temps. Les gardiens qui s'occupent de la maison. Et ils s'appellent comment, ces gardiens, monsieur? Dacruz. C'est le couple Dacruz. Ça vous va? L'avocat a aussi donné l'adresse de sa résidence secondaire dans le Loiret. Elle se situe à 30 km de Milly-la-Forêt. À 10h45, une équipe de gendarmes débarque sur place, à la recherche des époux Dacruz. Waouh! Putain de maison, hein. Une belle maison de maître, même pourrait-on dire un château. L'avocat leur a dit que les Dacruz habitent une longère en bord de route. En échange de ce logement gratuit, ils assurent l'entretien de la propriété. Les gendarmes sonnent. Ils toquent. Personne. Les volets sont fermés. Ils ont dû s'absenter. Qu'importe, les gendarmes escaladent le portail et ils pénètrent dans la propriété. Et la surprise, la Peugeot 106 est là, devant eux. Un gendarme s'approche. Le moteur est encore chaud. Faudrait peut-être voir s'il n'est pas encore dans le coffre. Viens, on va péter la vitre arrière. Ils parviennent à ouvrir le coffre. Vide. Ok, on fouille le parc, on traîne pas. Mais rien de particulier à noter. Pas plus que dans la maison des gardiens que les gendarmes parviennent à ouvrir. La même équipe de gendarmes se lance ensuite dans une enquête de voisinage, porte à porte. Bonjour madame, dites-moi, est-ce que vous connaissez les Dacruz, les gardiens du château? Ah ben oui, bien sûr. Vous savez où ils sont? On a besoin de leur parler de manière urgente. Ah ben madame Dacruz, elle travaille à la boulangerie. Je peux vous donner son numéro si vous voulez. Formidable. Les gendarmes appellent immédiatement. Madame Dacruz, c'est la gendarmerie ici. Je crois savoir que vous êtes au travail. Est-ce que vous pourriez revenir chez vous? Oui, chez vous. Il faut absolument qu'on vous parle. Et puis on aimerait aussi parler à votre mari. Oui, vous pouvez l'appeler et lui dire de venir aussi. Entendu, on se retrouve sur place. Hein. Quand Madame Dacruz arrive au château, il y a des gendarmes partout. Autant vous dire que ça lui colle un coup de stress.
Merci d'être venue, Madame Dacruz. Votre mari, vous savez où il est? Il arrive? Normalement, oui. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il venait. Je pensais même qu'il serait là avant moi. En attendant, quoi qu'il arrive, madame, vous savez ce qu'il a fait hier soir et ce matin, votre mari? Est-ce qu'il a eu un comportement inhabituel? Est-ce qu'il avait l'air... bizarre, préoccupé. Moi, je me doute de pourquoi vous êtes là. Je le connais, mon mari. Je connais son passé. Et si vous êtes là, c'est qu'il a encore fait quelque chose de grave, n'est-ce pas? La dernière fois, je lui ai pardonné. J'ai fait ça pour les enfants, mais... S'il a recommencé, là, je lui pardonnerai pas. Je suis prête à vous aider, à coopérer avec vous. Salut, tu peux passer un nom au fichier, s'il te plaît? Manuel Da Cruz, avec un Z. Je pense qu'il a fait de la prison.
Affirmatif. Il a été condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour des faits de séquestration et de viol d'une jeune femme.
Renseignement pris, Manuel Da Cruz a 47 ans. Il est sorti de prison il y a un an. Il a travaillé quelque temps, mais il vient d'être licencié. Il ne lui reste plus que ce statut de gardien au matoufer au château. Sa femme dit que c'est un père de famille autoritaire. Lui, il fonctionne un peu à l'ancienne. C'est le patriarche, vous voyez. Sa femme a dit qu'il allait arriver. Alors les gendarmes l'attendent. Mais d'après vous, est-ce qu'il va venir? Si c'est lui, est-ce qu'il va venir se jeter dans la gueule du loup? Et puis s'il vient, en voyant tous ces gendarmes, il va se caleter en courant. Donc pas la peine de l'attendre, Marie-Christine a disparu. L'urgence maintenant, c'est de la retrouver, vite, et si possible vivante. Alors qu'est-ce qu'on sait sur ce Manuel Da Cruz? D'après ce fichier, il aurait une BMW. Dis, tu peux prévenir le dispositif aérien? Le suspect a une BMW. Les gendarmes se rencardent ensuite sur son passé de violeur. Les faits remontent à 2001, il y a donc 8 ans. À cette époque, il avait un peu moins de 40 ans, et d'après ce qu'on dit, il était porté sur la bouteille. Bon, voilà ce que j'ai pu réunir. Un jour, une jeune femme, une voisine de 13 ans, se présente chez lui. Elle s'appelle Morgane, et donc elle lui propose ses services pour faire du ménage ou toutes sortes de tâches ménagères. Bref, lui, il est un peu aviné. Il la fait monter de force dans sa voiture, il l'emmène au fond des bois et il la viole. Alors on a les déclarations de la gamine à l'époque, hein, elle a raconté qu'elle a eu l'impression qu'il voulait la tuer et qu'il a fallu qu'elle lui parle longtemps pour le raisonner et obtenir qu'il la relâche. Et là, elle dit qu'il s'est calmé et qu'il l'a libérée. Donc il a été interpellé, il a été jugé devant la cour d'assises d'Orléans pour viol. Il a été condamné à 11 ans de réclusion criminelle, il en a fait 6,5 et donc il est sorti il y a un an. Voilà tout ce que j'ai pu obtenir sur cette affaire. Écoute, c'est très intéressant ça. Et en même temps, c'est assez rassurant. Il a libéré sa victime à l'époque, donc c'est pas un tueur. Et donc à cette heure-ci, il paraît clair à 99% qu'il a violé Marie-Christine Audon. Faut pas se faire d'illusions. Mais il n'est pas certain qu'il l'ait tué. Ça nous laisse un peu d'espoir. Mais finalement, Manuel Da Cruz finit par rentrer au village au volant de sa BMW. Et il est immédiatement interpellé. Vous étiez où, monsieur? Ben, j'étais allé faire le plein d'essence à Pithiviers. C'est moins cher là-bas. D'accord, à part ça, ce matin, vous avez fait quoi, monsieur? Bah, je suis rentré chez moi. J'ai joué à la PlayStation. Et puis, je suis allé chercher une planche aussi. Bien, monsieur, je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour enlèvement et séquestration. On va vous emmener pour interrogatoire à la brigade de Milly-la-Forêt. Allez, c'est parti! Et voilà Manuel Da Cruz face aux gendarmes qui vont le cuisiner. Il faut faire vite. Il y a urgence. Si Marie-Christine est encore vivante, il faut la localiser et vite. Mais d'entrée, les gendarmes voient bien qu'il ne va pas craquer tout de suite. Il a le visage fermé, le regard sombre. On sent de la violence en lui. Il n'a pas du tout la tronche d'un homme prêt à collaborer. Bien, monsieur, nous allons commencer par effectuer des prélèvements. ADN, empreinte digitale, et puis vous prenez aussi de l'ADN qu'il pourrait avoir sur ses mains, hein, par tamponnage.
Si on retrouve l'ADN de Marie-Christine sur ses mains, il est cuit. En revanche, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose contre lui, si ce n'est la voiture, la 106. Sauf qu'on ne l'a pas arrêté au volant de cette voiture. Il pourra toujours dire que quelqu'un d'autre l'a volé.
Bien, monsieur, je vais être très clair avec vous. Nous sommes à la recherche d'une femme qui s'appelle Marie-Christine Oudot, qui a disparu ce matin en faisant son jogging. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Oh non, non, rien du tout.
Nous avons des raisons de penser qu'elle a été enlevée avec la Peugeot 106 de votre patron, hein, propriétaire du château. Voiture que nous avons retrouvée moteur chaud, garée devant le château. Est-ce que ça vous parle, ça ?
Je comprends rien à ce que vous me dites.
Moi, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. D'après ce que nous dit le propriétaire de la voiture, monsieur, les clés de la 106 étaient accrochées dans le château, et pour y accéder, il fallait avoir les clés du château et le code de l'alarme. Il nous dit qu'en dehors de lui, de vous et de votre femme, personne n'a les clés et personne n'a le code. Alors nous écartons votre femme pour des raisons que nous n'avons pas à vous expliquer. Il ne nous reste plus que vous, monsieur. Alors je vous repose la question. Avez-vous, oui ou non, emprunté ce matin la Peugeot 106 de votre patron ?
Mais non, moi j'ai rien à voir avec tout ça.
Nous avons, monsieur, le témoignage d'un habitant du village. Il dit que ce matin à 8h, il vous a vu au volant de cette Peugeot 106. Il dit même qu'il a été surpris parce que vous ne la conduisiez jamais. Et que par ailleurs, il est assez rare que vous partiez de chez vous aussitôt. Alors je vous repose la question, monsieur, avez-vous emprunté cette voiture ?
Ça ne le déstabilise pas du tout. Il répète qu'il n'a rien à voir avec tout ça, que tous ces gens l'accusent à tort parce qu'ils sont jaloux de lui. Et les heures passent, et la nuit arrive, et le jour se lève. Il n'a pas bougé d'un iota. On en est à la 47e heure de sa garde à vue. Il ne reste plus qu'une heure pour le faire craquer. Sinon, s'il n'y a pas assez d'éléments contre lui, il faudra le relâcher. C'est à ce moment-là que tombent les résultats des analyses ADN effectuées par le labo.
C'est bon, les gars, il est cuit.
Sur sa main gauche, le labo a détecté son propre ADN, normal, mais aussi celui de Marie-Christine Oudot. Il ne reste plus qu'une heure de garde à vue.
Bien, monsieur, nous avons identifié l'ADN de la jeune femme qui a été enlevée sur votre main gauche. Comment l'expliquez-vous ?
Je comprends pas ce que vous me dites.
Vous comprenez pas ? L'ADN de Marie-Christine Oudot est sur votre main gauche. Pourquoi ?
Mais en face, ils n'ont qu'une bourrique qui s'entête à nier les évidences. Il ne craquera pas pendant sa garde à vue.
Bien, monsieur, votre garde à vue est terminée. Vous allez être déféré devant le procureur de la République. Je vous le dis, monsieur, il y a un moment où il va falloir parler. Il y a un moment où il va falloir que vous parliez.
Quelle frustration ! Ça fait 2 jours que Marie-Christine Oudot a été enlevée. Elle est peut-être encore vivante. Et si elle est vivante, il faut la retrouver vite. Manuel Dacruz est déféré devant le procureur. Et ensuite, il est présenté au juge d'instruction, puisqu'une information vient d'être ouverte. Et là, miracle !
C'est moi qui l'ai enlevée, cette fille. C'est moi qui l'ai enlevée.
Elle est vivante ? Ou morte ?
Pas de réponse à cette question. Le juge lui présente alors une carte. Il veut bien indiquer où elle est.
Elle est ici, là. Et elle est dans ce bois. À Boissy, au Caille.
Le juge informe immédiatement les gendarmes.
Elle serait dans un bois à Boissy, au Caille. Oui, oui, en Seine-et-Marne.
Le bois en question n'est pas bien grand. Il fait 100 mètres sur 300. Les gendarmes se mettent à fouiller avec des chiens. C'est pas facile. Il y a des ronces partout et la nuit est en train de tomber. Et soudain...
C'est bon, je l'ai. Elle est vivante. Négatif, elle est décédée.
Le corps n'est qu'à 200 mètres de la route. Il est posé dans une cavité naturelle. Il est nu, recouvert de branchages. Voilà. Ils ne sont pas arrivés à sauver Marie-Christine. C'est Rajan et c'est Manuel Dacruz qui l'a tué, évidemment. Dans la foulée, arrivent les gars de la scientifique, avec un équipement tout beau tout neuf. Un bus baptisé Lab Unique. Il permet d'effectuer les premières constatations sur le corps de la victime dans une tente montée sur place, ce qui limite évidemment la contamination du corps pendant son transport.
Bien, messieurs, voilà ce qui résulte des premières constatations. Elle a été étranglée.
Est-ce qu'elle a été violée, docteur ?
Oui, sans doute, avec les réserves d'usage. Il faudra le confirmer à l'autopsie, mais oui, elle a été violée, c'est probable.
Aussitôt, l'interrogatoire de Dacruz reprend dans le bureau du juge.
Bien, monsieur. Nous avons retrouvé le cadavre de Marie-Christine Audot sur vos indications. C'est vous qui l'avez enlevé et tué ?
Ouais. Ouais, c'est moi.
Violé ? Vous l'avez violé ?
Pas de réponse sur ce sujet. Mais pour le reste, il assume. Le juge le met en examen pour enlèvement et séquestration suivie de meurtre. Et les explications viennent après.
Ce matin-là, j'étais pas bien. J'ai pris ma voiture et je suis allé à Milly-la-Forêt. Et puis je me suis garé. Et puis j'ai attendu. Et puis j'ai vu passer cette femme et je sais pas, j'ai eu comme une pulsion et je l'ai suivi avec ma voiture. Et puis je me suis garé dans un petit chemin. J'avais un couteau, je l'ai sorti. Je l'ai forcé à monter dans le coffre. Et j'ai repris la route.
Madame Audot a appelé la gendarmerie sur son portable. Vous avez entendu son appel ?
Ouais. Ouais, je l'ai entendu, alors j'ai arrêté la voiture, je suis descendu. J'ai ouvert le coffre et puis je lui ai donné un coup de poing, quoi. Et bien sûr, j'ai balancé son téléphone.
Et ensuite, monsieur ?
Bah, ensuite, je suis allé jusqu'au bois. Je l'ai fait descendre. Et puis, je l'ai forcé à s'enfoncer dans le bois. Et puis, à un moment, je l'ai attaché.
Avec quoi vous l'avez attaché ?
Avec des fils électriques.
Et là, vous l'avez violé ?
Ouais.
Et tué dans la foulée ?
Non. Non, je l'ai laissé attacher. Et puis, je suis rentré chez moi. Je savais qu'elle avait donné la marque de la voiture et l'immatriculation. Et donc, je suis rentré chez moi pour changer de voiture, pour prendre ma BM, quoi.
Et vous êtes revenu dans le bois pour la tuer ?
Non, non, non. À ce moment-là, je voulais pas la tuer. Et puis, quand je suis arrivé dans le bois, elle était parvenue à se détacher. Elle était plus là. Alors, je me suis dit, elle doit être quelque part, sur le bord de la route, quelque part, pour chercher des secours. Et donc, j'ai commencé à rouler avec ma voiture autour du bois. Et puis là, je l'ai vue, elle marchait sur le bord de la route. Et forcément, elle s'est pas méfiée, puisque j'avais changé de voiture. Alors je l'ai dépassée, et je l'ai attendue dans un coin, et c'est là que j'ai décidé de la tuer. Elle m'avait vu. Elle avait vu les deux voitures. J'étais coincé.
Et comment l'avez-vous tué ?
Moi, je l'ai étranglé.
Comment ?
Avec le t-shirt qu'elle portait.
En l'écoutant... On se met à la place de Marie-Christine, bien sûr. Elle a eu une mort effroyable, effroyable. Les obsèques de Marie-Christine Audot ont lieu 9 jours après le meurtre, en l'église Notre-Dame de l'Assomption de Milly-la-Forêt. L'église est pleine à craquer. Et le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, est là.
Frères et sœurs, nous sommes là pour Marie-Christine. Nous ne sommes pas ni dans un tribunal pour juger, ni dans un hôpital pour soigner, ni au Parlement pour définir une politique. Cette cérémonie est celle du cœur, de la fraternité.
Et à la fin de la messe, le ministre fait une déclaration. Je suis venu exprimer au nom du président de la République, au nom du gouvernement tout entier, l'émotion qui est la nôtre, et partager la douleur avec la famille. Et dans la foulée, il critique vertement les juges d'application des peines, car Manuel Ribeiro da Cruz est un récidiviste qu'on a laissé ressortir, avant la fin de sa peine. Et cette histoire tombe à pic pour illustrer les réformes que Nicolas Sarkozy veut engager contre la récidive. Finalement, le juge a décidé de changer le motif de mise en examen de Manuel da Cruz. Jusqu'ici, on parlait de meurtre. Désormais, il veut qu'on parle d'assassinat. Il pense qu'il a prémédité son geste. Depuis sa cellule, Manuel da Cruz écrit des lettres d'excuses à sa famille, lettres dans lesquelles il parle de se suicider. Et il passe à l'acte fin novembre. Il avale des médicaments dans sa cellule. Il est sauvé de justesse. On va pouvoir le juger. Le procès de Manuel Ribeiro da Cruz s'ouvre 2 ans plus tard, en novembre 2011, devant la cour d'assises d'Évry. Et comme l'affaire a été très médiatisée et que les politiques en ont fait leur chou gras, il y a foule sur les bancs de la presse, plus de 50 journalistes. Ce procès est marqué par 2 moments très forts. D'abord, le président fait écouter l'enregistrement de l'appel passé par Marie-Christine Audeau depuis le coffre de la voiture. Un enregistrement sonore que les gendarmes ont calé sur les images de la reconstitution.
Allô ? Allô, on est en train de m'enlever. Je m'appelle Marie-Christine Audeau. Et un homme avec un couteau m'a mis de force dans le coffre de sa voiture. C'est une Peugeot 106.
C'est bouleversant. C'est déchirant. Et puis on fait venir à la barre la première victime de da Cruz, Morgane. Et 10 ans après, elle raconte le calvaire qu'il lui a fait vivre.
J'étais vierge à l'époque. J'avais 13 ans. Ça a été très dur pour moi de me reconstruire. D'autant plus que je savais qu'il allait recommencer. Je savais qu'il allait recommencer.
Que voulez-vous que plaide l'avocat de da Cruz après ça? Il fait ce qu'il peut. Il fait le métier.
Monsieur da Cruz réagit davantage à des pulsions qu'il ne réfléchit. Il serait peut-être plus inquiétant s'il était plus intelligent.
Le verdict traduit évidemment la volonté de faire barrage à la récidive. Manuel Ribeiro da Cruz est condamné à la peine la plus lourde prévue par le code pénal. Perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Et je suis donc avec vous, maître Dominique Pollion, pour débriefer cette histoire. Vous étiez avocat de la partie civile dans ce procès et vous représentiez les intérêts de la maman et des 2 frères de Marie-Christine Audeau. Peut-être qu'avant de commenter ce récit, on pourrait dire 2 mots sur le sort qui s'est acharné sur cette famille Audeau dans les années qui ont suivi, parce que la maman de Marie-Christine est morte très peu de temps, c'est ça, après ? Elle s'est laissée mourir ?
Oui, vous avez raison, monsieur Onlatte. Effectivement, ce procès n'a pas fait une victime, en l'occurrence Marie-Christine Audeau, mais également indirectement sa mère, puisque celle-ci avait dit à ses enfants, à ses 2 frères, « J'attends le procès de ma fille, et après je n'ai qu'un seul souci, c'est la rejoindre ». Et malheureusement, elle a mis à exécution son souhait, puisqu'elle est décédée le 6 janvier 2012, alors que l'arrêt de la cour d'assises était du 8 novembre 2011. Elle a été rejoindre sa fille, effectivement.
Mais elle ne s'est pas suicidée, on est d'accord. Si.
Elle ne s'est pas suicidée, elle s'est purement et simplement laissée mourir. Mmh. Elle suivait un traitement qu'elle n'a plus pris.
Et c'est pas tout, puisque le frère de Marie-Christine est mort lui aussi quelques temps plus tard.
Alors, effectivement, ce décès n'est pas un lien direct avec le procès, mais M. Pascal Audeau, que j'assistais dans le cadre du procès pénal, effectivement, qui était un pompier émérite sur la région de Milly-la-Forêt, est décédé donc en intervention D'ailleurs, la caserne de Mailly-la-Forêt porte son nom aujourd'hui. Mais effectivement, c'est une famille qui a été tragiquement frappée par le sort.
Alors, un commentaire sur le verdict. Il prend donc perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'est le maximum actuellement prévu par le code pénal. Et j'entends déjà les gens qui disent à l'autre bout, il faudrait la perpétuité réelle pour ce type-là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pour moi, la décision qui a été rendue était adaptée sur le plan strictement pénal. Pour la famille, bien évidemment, ce n'était pas suffisant. D'ailleurs, la famille Odo avait eu un mot un petit peu maladroit, mais qui avait été dit sous le nom de l'émotion. Le jour où il sortira, nous serons là. Mmh. Nous serons là pour l'accueillir. Et même si effectivement la peine maximale a été prononcée, en l'occurrence la perpétuité, avec 22 ans de sortie, il a été incarcéré. Il avait 49 ans, il ressortirait à 71 ans, 72 ans. Mais il y a également une chose que nous avons obtenue lors du procès, c'est-à-dire un suivi socio-judiciaire donc de 10 années, ce qui veut dire que même effectivement si M. Dacruz était amené à sortir, il y a quand même un suivi socio-judiciaire qui doit automatiquement se mettre en place pendant une période de 10 années.
Ils vous diront, les mêmes personnes hein, qui disent que sûreté de 22 ans c'est pas assez, ils vous diront que le suivi socio-judiciaire c'est un truc un peu bidon qui n'est jamais véritablement et sérieusement appliqué.
C'est un grand débat d'ailleurs qui a eu lieu durant le procès de la cour d'assises, puisqu'on a fait de ce procès le procès de la récidive. Oui, effectivement, on peut le considérer comme le procès de la récidive, mais c'est avant tout le procès du manque de moyens pour effectivement les professionnels, les psychiatres, les psychologues, puisque dans le cas de la première condamnation de monsieur Dacruz, aucun suivi réel n'avait eu lieu pendant et après sa sortie de prison.
Donc il faut dire les choses telles qu'elles se passent actuellement. En prison, qui serait le lieu idéal pour soigner les gens, on ne les soigne pas, les délinquants sexuels, et lorsqu'ils sortent, on ne les suit pas. C'est ça la réalité.
On ne les soigne pas, on ne les suit pas, et d'ailleurs j'en veux pour preuve les déclarations qu'avait fait monsieur l'expert Coutonceau, qui était venu déposer à la barre de la cour d'assises d'Evry. Je lui avais posé bien évidemment cette question, et il avait admis lui-même, avec beaucoup de franchise, qu'il n'y avait pas de réel suivi pour les personnes condamnées au sein des maisons d'arrêt.
En prison, il faut le dire ça, ces gens-là sont en cellule, ils vont en promenade, à aucun moment on ne les oblige à suivre une thérapie, et quand bien même voudraient-ils en suivre une, pour ces peines-là, ils sont en centre de détention, ils n'auront aucune occasion de suivre une thérapie.
En tout cas, très peu. Mmh. Pendant leur incarcération, et malheureusement souvent après leur incarcération, lors de leur sortie. C'est encore pire, effectivement.
Alors le procès, comment est-ce qu'il se comporte au procès ? Lui, depuis le début, il dit « Je n'avais pas l'intention de la tuer, je l'avais attachée dans la forêt, je suis allé changer de voiture, et ça n'est que parce qu'elle s'était échappée que je l'ai tuée. »
Monsieur Dacruz, durant ce procès, a été fidèle à lui-même. Vous avez rappelé l'instruction et son attitude devant le juge d'instruction. Il n'a pas craqué. Il a été extrêmement peu loquace durant ce procès, très renfermé sur lui-même et avec très peu d'empathie, pour ne pas dire pas du tout, durant le procès, n'exprimant strictement aucun regret devant la cour d'assises d'Evry.
Aucun regret, aucune honte, aucun mot pour la famille que vous représentez, vous ?
Aucun mot durant les quelques jours du procès.
Alors le verdict retient le meurtre avec préméditation, donc l'assassinat. Qu'est-ce qui détermine la préméditation dans cette affaire ? Parce que on a donc un type qui dit qu'il ressent une pulsion, qui enlève cette fille, qui va la violer et l'attacher, qui dit qu'il ne la tue que parce qu'entre-temps elle s'est échappée et qu'il a réussi à la rattraper et que maintenant elle sait quelles sont les deux marques de ces deux voitures. Elle est où la préméditation là ?
La notion de préméditation n'est pas toujours une chose facile sur le plan juridique à établir. Ceci étant, vu les éléments du dossier, la notion de pulsion qu'il a déclarée n'était pas, à mon avis, matérialisée. Je pense effectivement que M. Dacruz a parfaitement, je vais mettre entre guillemets, repéré sa proie. M. Dacruz n'ayant pas agi comme il l'avait déclaré sous la pulsion, mais qu'il avait parfaitement prémédité ses actes.
C'est-à-dire que ce matin-là, il va donc à Mailly-la-Forêt, lui dit qu'il voit passer cette fille. Vous pensez qu'à partir de ce moment-là, il a décidé de la tuer ?
Effectivement. Effectivement, c'est ce qui ressort clairement du dossier.
Alors même qu'il n'a jamais tué avant, c'est un homme qui a donc plus de 40 ans. C'est ça qui est assez étonnant, parce que ce genre de type est en général un type qui va passer plusieurs fois à l'acte, à l'action, pendant plusieurs années. Là, il a violé une mineure, il ne l'a pas tuée, et des années plus tard, il viole une majeure, une dame plutôt mature, et il la tue. Il y a un truc qui colle pas dans le profil du bonhomme.
Je l'entends, monsieur Ondelat, ceci étant, j'avais pris le soin de faire citer Morgane Vallée lors du procès, hein, c'est elle qui est venue déposer à la barre, et lors de cette déposition, elle a dit, d'ailleurs elle a écrit, puisqu'elle a fait un ouvrage à cet effet, il recommencerait, elle avait déjà compris, elle, de son côté, par rapport au fait qu'elle avait vécu en 2002, que c'était un homme qui recommencerait. C'était donc intrinsèque à sa personnalité.
On peut donc imaginer que peut-être entre Morgane et Marie-Christine, il y ait eu d'autres victimes. On en a cherché, à votre connaissance ?
Alors, non seulement on en a cherché, mais il semblerait que dans le cadre donc d'affaires non résolues, telles qu'on les appelle, M. Dacruz puisse être concerné par une ou deux autres affaires. Mmh. Une enquête préliminaire est en cours à cette époque.
Alors parlons maintenant de la récupération politique de ce drame. Comment est-ce que vos clients vivent ça ? Ils approuvent la récupération par le président de la République Nicolas Sarkozy et le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux ?
Non, ils n'ont pas approuvé effectivement cette récupération. Certes, ils ont été reçus à l'Élysée par le président de la République. Ceci étant, ils n'avaient pas le recul nécessaire. C'était l'émotion qui parlait, bien évidemment, à ce moment-là. Mais ils n'ont pas apprécié, effectivement, que M. Hortefeux se déplace à Milly-la-Forêt.
Pour les obsèques, vous voulez dire ?
Pour les obsèques, effectivement. C'était une, comme l'a dit le prêtre à l'époque, une cérémonie presque intime. En tout cas, la famille était concernée et la ville de Milly-la-Forêt était également et faisait corps avec la famille Odo, car c'était une jeune femme qui était très appréciée dans le milieu associatif de Milly-la-Forêt.
Vous êtes en train de me dire qu'ils ne savent pas, avant les obsèques, que Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, sera là.
Ils n'ont pas été prévenus. Personne n'a été prévenu.
Nom de Dieu. Et c'est énorme, ça.
Oui, effectivement. Ça a été très peu apprécié. D'ailleurs, monsieur le ministre n'est pas resté très longtemps une fois la cérémonie terminée.
Oui, il a senti qu'il n'était pas vraiment à sa place.
Je pense, effectivement.
En même temps, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, pose un vrai sujet. On a dit tout à l'heure que ce sujet n'avait pas trouvé d'ailleurs de solution en l'état. Mais la récidive des délinquants sexuels est un vrai sujet.
La récidive des délinquants sexuels est un vrai sujet. Comme je vous l'ai indiqué, le suivi des délinquants sexuels est également à la fois lorsqu'ils sont incarcérés, mais également une fois qu'ils sont libérés. Car dans ce dossier, un autre débat est apparu, à savoir effectivement la libération anticipée de M. Dacruz,
oui,
puisqu'il a fait en tout et pour tout 6 ans et demi de prison sur les 11 ans qu'il avait donc auquel il avait été condamné par la cour d'assises du Loiret. Quand j'ai pris connaissance des éléments qui avaient été appréhendés par le juge des applications des peines
pour
envisager
libérer,
sa libération, oui, pour les, oui, effectivement pour le libérer, et quand je vois que ce magistrat n'a pas fait attention et a autorisé Monsieur Dacruz à revenir habiter dans le village de sa victime,
Morgane
Vallée, qu'elle croisait, qu'elle a de nouveau recroisé, c'est une chose épouvantable. Épouvantable.
Et en même temps, est-ce que l'exécution complète de la peine de 11 ans à l'issue de laquelle il serait sorti sèche, est-ce que ça aurait changé quelque chose à sa dangerosité ?
Si le suivi avait été effectif du ressort de la réincarcération, peut-être. Tout au moins, j'ose le croire. Mmh. Mais vous savez, c'était en 2009, le procès de la cour d'assises. C'était en 2011 que l'arrêt a été rendu. 2009 était le jour des faits. Mais vous savez, très sincèrement entre nous, la situation s'est pas foncièrement améliorée aujourd'hui.
On est d'accord.
C'est-à-dire
que
d'accord.
Derrière les annonces politiques, il n'y a pas vraiment eu quelque chose.
Non, parce que nous sommes toujours confrontés à un problème de moyens. Problème de moyens au niveau des magistrats, problème de moyens au niveau des intervenants, et problème de moyens au niveau du suivi des condamnés.
Par le service de probation.
Bien évidemment.
Débordé.
Les services de probation, les personnes qui suivent effectivement ces personnes ont un nombre très important de dossiers à suivre et ce suivi n'est pas effectif.
Merci beaucoup, Maître Dominique Pollion, d'avoir débriefé cette histoire avec nous. Demain à 6h, un podcast pour vous, spécialement l'histoire du jour, vous est donné, offerte, cadeau, avec une avance de 8 heures par rapport à sa diffusion sur l'antenne d'Europe 1. Et ce faisant, vous aurez remarqué que nous n'avons pas perdu un seul auditeur sur Europe 1 à cette heure-là, et c'est un des plaisirs de cette aventure du podcast que de pouvoir conquérir un nouveau public, un peu plus jeune, un peu plus technologique, un peu plus souple, et qui ne peut pas être disponible surtout à 2h de l'après-midi. Il y a des tas de gens qui bossent à cette heure-là.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Avant de vous laisser, une excellente nouvelle pour vous. Désormais, vous avez la possibilité de vous abonner à On de la Traconte Premium sur Apple Podcast. Pour 2,49€ par mois, vous pouvez écouter mes histoires avant tout le monde et entendre une sélection de récits que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors abonnez-vous dès maintenant sur Apple Podcast.